RCF. En 2004, Perrine et Charles Hervé Gruyer décident de s'installer dans une ferme en Normandie, à proximité de l'abbaye millénaire du Bec-et-Loing. En quelques années, ces néo-ruraux, qui ne connaissent rien à l'agriculture, vont devenir une référence en matière d'agriculture naturelle. Perrine et Charles Hervé Gruyer, bonjour et merci de nous accueillir dans cette ferme du Bec-et-Loing. Aujourd'hui, non seulement vous cultivez des légumes et des fruits d'une incroyable diversité, mais où vous faites de la recherche, épaulée par des chercheurs de l'INRA et d'AgroParisTech. Et puis la ferme du Bec-et-Loing, c'est aussi un lieu où se forment chaque année des personnes attirées par la permaculture, dont vous êtes devenus des spécialistes en France et que vous allez nous présenter au cours de cette émission. Alors comme nous allons le voir dans un instant, avant 2004, vous avez eu tous deux des vies passionnantes. Charles, comme navigateur, éducateur autour du monde. Perrine, comme juriste international au Japon et à Hong Kong. Et aujourd'hui, quand vous vous présentez, vous dites « nous sommes des paysans ». Alors pour vous, Perrine, qu'est-ce que c'est qu'être paysan ?
Moi, la première définition du mot paysan qui m'a vraiment touchée, dans laquelle je me suis reconnue, c'est quand Pierre Rabhi a dit « les paysans, ce sont ceux qui façonnent le paysage ». Et tout de suite, je me suis dit « mais oui, en fait, ce que nous faisons ici, c'est bien plus que de produire de la nourriture, ce qui est déjà assez essentiel, hein, il faut le dire. Mais en plus, nous créons un paysage, nous créons des écosystèmes, et c'est vraiment en cette définition que je me suis reconnue. »
Et vous, Charles ?
C'est le côté humble. Le paysan, on ne l'imagine pas bardé de technologies industrielles sophistiquées. On imagine plutôt quelqu'un qui est courbé sur sa terre au fil des saisons, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais.
L'humilité. D'ailleurs, le mot humus vient de là, hein.
C'est la, absolument, c'est l'humus, la l'humain, oui.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes paysans tous les deux aujourd'hui. Vous ne l'avez pas toujours été. Vous avez eu des parcours assez incroyables. Vous pourriez, Perrine, être juriste encore du côté de Hong Kong ou de Tokyo. Mm-hmm. Charles, on va le voir. Vous pourriez être encore sur un bateau à naviguer. Donc, j'aimerais, pour que les auditeurs comprennent quel type de paysan vous êtes aujourd'hui, qu'on revienne sur ce que vous avez vécu l'un et l'autre. D'abord, Charles, vous avez énormément navigué. Vous avez été navigateur, mais avant cela, vous étiez de Paris, vous n'étiez pas de la terre.
Oui, moi je suis un petit parigot, ce qui est plutôt un handicap dans le monde agricole. Mais je me soigne. Mais c'est vrai que j'ai grandi au cœur de Paris, dans une école où il y avait 1000 élèves, mais un seul arbre, et j'étais très malheureux dans ce contexte. Et ma respiration, c'était d'aller notamment chez mon grand-père en Normandie, où là, je passais de l'aube à la nuit dans les bois avec mon chien, et là, je me sentais vraiment exister et revivre. Et je m'étais lié avec une famille de paysans voisins. On était très amis, on l'est toujours d'ailleurs. Et j'adorais aller leur donner un coup de main pour rentrer les foins. Alors, quand j'étais ado, j'avais dit à ma famille, je voudrais devenir agriculteur. Et tout le monde m'avait dit, mais tu peux pas, si on n'est pas né là-dedans, c'est beaucoup trop dur. Voilà. Et du coup, j'ai mis ce rêve entre parenthèses et je suis devenu marin pendant 22 ans.
Alors, un marin particulier, puisque vous étiez éducateur et marin, vous pouvez nous raconter un peu cette... C'est combien, 21 ans, 22 ans d'aventure ?
22 ans, parce que donc je cherchais un sens à ma vie, je cherchais à quoi employer mon énergie. Et je suis devenu éducateur à l'âge de 20 ans ou 21 ans. Et puis, je voyais ces jeunes qui étaient enfermés dans un foyer. C'était pas du tout réjouissant. Ils avaient pas de perspective à leur vie.
Des jeunes qui avaient des difficultés sociales,
des cas sociaux, des jeunes délinquants. Et je me retrouvais assez fortement en eux. Moi aussi, je cherchais un sens. Et à l'époque, un ami m'a invité à faire une croisière. Et ça m'a tellement, tellement apporté que je me sentais vraiment exister sur l'eau, que je me suis dit pourquoi pas les en faire profiter. Et c'était le début, effectivement, d'une aventure qui a duré 22 ans, qui nous a permis de sillonner les océans du monde avec des jeunes et des scientifiques pour étudier les rapports entre l'homme et la nature. C'était notre principal axe d'étude, partager la vie des gens, partager la vie de communautés locales et notamment des peuples premiers.
Alors ça, Charles-Hervé Gruyer, on le sent bien dans votre livre, vous avez été très marqué par l'enseignement, mais aussi la présence de ce qu'on appelle des peuples premiers, que ce soit au Vanuatu ou que ce soit en Amazonie surtout. Vous pouvez nous expliquer ce que ces peuples vous ont fait découvrir d'essentiel qui vous habite encore aujourd'hui?
Oui, eh ben, pour moi, et je pense que c'était lié à mon éducation parisienne trop coupée du vivant, cette question de comment est-ce qu'on peut durablement habiter cette planète, elle s'est vite imposée comme une question majeure, sinon prioritaire, dès mes 20 et quelques années, parce qu'on naviguait, on assistait à la détérioration de la planète. Et donc, très vite, je me suis dit, mais allons à l'école de ceux qui savent vivre en paix avec leur environnement naturel. Et pendant 15 ans, on a partagé la vie de communautés, d'Amérindiens, d'Aborigènes en Australie, des peuples d'Afrique, d'Asie. Et c'était une leçon de vie, une leçon d'humanité extraordinaire.
Et vous l'expliquez très bien dans le début du livre par cette petite histoire d'une remontée en pirogue à contre-courant. Vous pouvez nous la raconter brièvement?
Alors voilà, moi j'ai un grand bout de mon cœur dans le village d'Antecumpata, où je ne suis pas retourné depuis 20 ans maintenant, au fin fond de la Guyane française, chez les Indiens Wayana. Et il y avait un petit enfant qui est maintenant adulte, j'ai eu de ses nouvelles récemment, qui s'appelle Poupoli. Et un jour à 10 ans, il me propose d'embarquer dans sa petite pirogue, qui était à peu près grande comme une maquette de pirogue, quoi. Alors moi, c'est très instable, ces petites bêtes-là. Et pourtant, notre valeureux Poupoli remontait gaillardement le courant, passait les rapides, etc. Et on arrive devant une immense chute d'eau qui barrait le fleuve. Et j'étais très frappé parce que ce gamin de 10 ans, avec sa petite pagaie, en jouant habilement sur les contre-courants, en se glissant derrière les roches, eh ben, il a remonté sans aucun effort pour pêcher juste au pied de la chute d'eau. Et j'étais frappé par la disproportion entre la faiblesse de l'enfant et le résultat qu'il obtenait. Juste parce qu'il était bien positionné. Il avait la connaissance de ce milieu. Il savait utiliser les forces à l'œuvre dans ce fleuve-là. Chaque courant génère des contre-courants. Il savait utiliser les contre-courants. Et moi, ça a été une sorte de petite parabole du fait que la société est comme une sorte de fleuve gigantesque qui nous emporte, on ne sait pas très bien où parfois, mais que si on se positionne bien, de manière juste par rapport à nos attentes, par rapport à nos aspirations, eh ben on peut habilement arriver à ses fins, et sans forcément que ce soit une lutte insensée, en utilisant les forces à l'œuvre.
Alors vous, Perrine, c'était pas les fleuves amazoniens, mais c'était plutôt les hautes tours de Tokyo ou celles de Hong Kong.
Hein, il y a des fleuves de population quand on arrive au tout début. C'est un petit peu l'effet que font les masses de personnes qui traversent les rues.
Alors vous, visiblement, enfin, si on lit le livre Permaculture là, que vous avez publié, rien ne vous disposait à devenir paysanne. Il paraît que même vous refusiez de vous asseoir dans l'herbe pour pique-niquer de peur de salir vos mains. C'est vrai ou Charles exagérait un peu
vrai,
dans le livre?
C'est vrai, mes parents racontent toujours ça. Là, je trouvais que l'herbe piquait et était sale quand j'étais enfant. Ça ne m'empêchait pas de passer des heures, pareil avec mon chien, dans les bois. J'avais un petit côté sauvageonne quand même, mais voilà, je vivais un petit peu comme un esprit libre. J'étais déjà très proche des animaux et je m'imaginais tout un tas d'aventures dans la nature. Mais je n'avais pas à m'adouer cette nature parce que j'étais occupée à autre chose, en fait. Toute mon enfance et ma jeunesse ont été prises par une passion qui était le sport, le basketball notamment. Et voilà, j'étais quand même relativement citadine, tout en n'aimant pas forcément ça, mais c'était la nécessité qui faisait loi, on va le dire, et j'aimais ces échappées un peu solitaires à vélo ou à pied avec mon chien.
C'est le sport qui vous a façonné, qui a façonné votre caractère.
Moi, je pense que le caractère, c'est un petit peu de famille, mais oui, le sport est une merveilleuse école de la vie. Esprit de compétition, mais surtout esprit d'humilité, savoir accueillir les épreuves quand elles sont là, aller jusqu'au bout, se donner jusqu'au bout. Ça, je pense qu'il y a une part d'éducation, il y a une part de transmission transgénérationnelle pour le coup, mais il y a aussi cet apprentissage de la vie, de l'humilité, surtout dans un sport collectif, hein, on n'est pas seul, alors certes on n'est pas face à soi-même, on a le soutien d'autres personnes, mais on emmène aussi les autres personnes, et c'est un petit peu mon caractère. Hein,
Alors vous aimiez le basket, mais vous n'en avez pas fait carrière, vous êtes orienté, vous avez fait un DEA en droit économique et développement international, vous êtes devenu juriste international, alors j'aimerais que vous nous expliquiez. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous transporter du côté de l'Asie d'abord et non pas rester en France ?
Un peu les hasards des choses. Je me suis laissé emmener par la vie, par les opportunités. Tout simplement, j'ai fait ce DEA de droit et économie du développement. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de travail dans ce domaine-là. Donc, j'ai été poussée par mon directeur de mémoire à faire une thèse. Donc, je me suis embarquée dans une thèse de doctorat. Et en réalité, moi, je suis vraiment une personne de terrain. J'ai besoin d'être sur le terrain, non seulement de basket, je continuais quand même à jouer à l'époque, mais de vraiment d'être une réalisatrice, quoi. Je peux pas me contenter d'être une intellectuelle. J'ai besoin de ces deux côtés, d'être une faiseuse et aussi une réfléchisseuse. Je sais pas si c'est très correct tout cela.
Mais vous aviez le rêve de parcourir le monde,
oui,
comme
Charles. Ça c'est ma fibre. Moi, je suis issue, je suis une troisième génération de migrants italiens. Alors, c'est peut-être ça qui me rattrape. Mais ma fibre est complètement dans la découverte de l'autre culture, de l'autre langue. J'adore ça, aller à l'étranger, mais pas aller à l'étranger pour visiter comme une touriste. C'est très frustrant ça pour moi. Vivre à l'étranger, parler la langue étrangère, partager un repas avec d'autres personnes, voir comment ils vivent au quotidien, c'est ça qui me fascine dans les autres. Et donc le Japon s'est fait tout à fait par hasard. Je faisais un petit peu semblant de faire ma thèse et vraiment il fallait que je parte. Et j'ai trouvé une opportunité pour partir au Japon. Donc, je partais à l'origine pour 6 mois. Et puis, j'y suis restée quasiment 4 ans. L'opportunité a fait que j'ai trouvé un emploi dans un cabinet d'avocat à Tokyo, ce qui est quand même pas banal. Un cabinet qui était spécialisé en affaires franco-japonaises, notamment. Et puis, voilà, ça a été une fabuleuse expérience pour moi. J'avais pas véritablement d'attirance pour l'Asie au départ. C'était plutôt l'Afrique, un petit peu ma spécialité. Et pour autant, j'ai découvert un peuple absolument fascinant, difficile à comprendre, je pense. Déjà, il y a la philosophie illaise, mais voilà, c'était une grande, grande période de ma vie.
Visage, RCF.
En vous ayant écouté quelques minutes l'un et l'autre pour présenter votre vie d'avant, avant celle aujourd'hui de paysan, on sent bien qu'il y a chez vous le goût de l'aventure, le goût de la rencontre de l'autre, le goût du voyage. C'est apparemment l'opposé de la vie de paysan, qui sont sédentaires, qui sont terriens. Alors pourquoi Charles, le navigateur que vous étiez, a vendu son cher bateau, la fleur de l'Ampol, et puis pourquoi vous, la juriste, a quitté les tours de Hong Kong et de Tokyo? On va commencer par Charles.
Ben, je dirais qu'au bout de 22 ans, j'avais vraiment l'impression d'être arrivé au bout d'un cycle. J'avais mes deux premières filles, un divorce, je faisais perpétuellement la navette entre le bateau, des avions, Paris, l'île-dieu où j'habitais. Je m'épuisais. Et puis, à un niveau plus profond, je dirais que faire le tour du monde pour un marin, c'est peut-être un peu faire l'Himalaya pour un alpiniste. Ça a été notre dernier voyage. J'avais envie de passer à autre chose. Et cette autre chose m'a été un peu soufflé à l'oreille par les peuples premiers, qui étaient souvent des peuples paysans et qui me renvoyaient à cet amour pour la terre que j'avais quand j'étais ado. Et donc, je rêvais de me reconnecter à une terre. À force de voyager, on finit par avoir un peu le tournis, plus savoir à quel monde on appartient. Et j'avais du mal à me situer entre l'Occident dont je suis issu, ces valeurs des peuples premiers qui me fascinaient. En même temps, je suis pas né amérindien.
Donc, vous auriez aimé être amérindien?
Oui.
Excusez-moi, on fait le choix de rester vivre avec des Amérindiens.
Oui, peu. Honnêtement, c'est pas facile de s'immerger dans une culture très différente, je crois, à ce point-là. Mais ça m'attirait. En même temps, j'avais mes enfants en France, etc. Et je voulais pas les marginaliser non plus. Et donc, je me suis dit, la solution, ça va peut-être être de vivre comme un Indien, mais chez nous. C'est-à-dire ne pas renier ma culture, mais me laisser aussi inspirer par ces valeurs que j'adorais chez eux et qui sont pas non plus absentes de notre culture.
Vivre comme un Indien en Normandie.
Voilà.
Revenir à vos
c'est-à-dire
racines.
Pas forcément sous un tipi avec des plumes, donc je ne porte pas mes plumes habituellement. Et vous voyez, le bâti de la ferme, etc., est tout à fait ancré dans notre tradition.
On est vraiment dans une ferme normande.
Voilà.
En fait,
mais en même temps, cette ferme est fort différente des autres fermes normandes, même si le bâti, les pommiers sont là, les colombages, les toits de chaume. Et c'est ça qui a fait que la ferme est différente, je crois. C'est une synthèse entre ce que j'avais pu glaner dans ces expériences tout autour du monde et puis notre culture à nous.
Et alors vous, Perrine, parce que vous pourriez être juriste à Tokyo, passionnée par le zen ou l'ikebana, et vous avez fait le choix de devenir paysanne ici en Normandie.
Alors sans doute, pourrais-je vivre ailleurs, ça effectivement. Être juriste, je ne pense pas. J'étais très, très contente d'avoir vécu cette première carrière, cette première vie professionnelle. Intellectuellement, cela satisfaisait vraiment tous mes besoins, toutes mes envies. Mais il me manquait un sens. Et j'étais véritablement en quête de sens quand je suis revenue passer quelques mois en France pour me reposer, voir ma famille. Et c'est là que j'ai rencontré Charles. Et il a fallu prendre une décision qui a été assez terrible pour moi, parce que cela veut dire poser mes bagages en France, ne plus repartir. Donc ça a été véritablement compliqué pour moi parce que je suis vraiment faite pour vivre ailleurs, quoi. C'est évident. J'adore mon pays, hein. Il n'y a pas de méprise là-dessus. Je trouve que c'est un pays extrêmement riche dans lequel on a un potentiel énorme et on ne le sait pas. Et quand on voyage un petit peu, on s'en rend un peu plus compte. Mais donc, il a fallu poser ses valises et à partir de là, réinventer notre vie. Et je crois que le point que nous avons en commun, c'est d'être, si ce n'est idéaliste, en tout cas, deux personnes qui ont l'ambition de vivre des rêves et de poursuivre quand même un idéal et de faire leur part.
Il paraît que vos amis vous surnommaient Zorot quand vous étiez jeune pour changer le monde. Vous avez toujours ce désir de changer le monde quelque part et on va le voir dans votre projet autour de la permaculture.
Oui, complètement. Je crois que ce que nous faisons ici ne se fait pas par hasard.
Si vous on participez pas au changement envie, de la société.
Voilà, on n'avait pas cette ambition aussi excessive, on va dire, quand on a créé la ferme. Mais avant de créer la ferme, je me souviens de discussions qu'on pouvait avoir le soir tous les deux pendant des heures et on cherchait quoi faire, comment changer le monde, comment changer la société, la rendre plus humaine, plus, pas idéale, mais plus viable, on va dire.
Mais alors, comment est née chez vous deux, Perrine et Charles-Hervé Gruyer, cette décision de vous installer ici, sur cette terre, et de devenir paysan, de créer cette ferme, et puis après, on le verra, de développer la permaculture dont vous êtes aujourd'hui des représentants?
En trois mots, ça s'est fait presque un petit peu par hasard, dans ce sens que ma famille maternelle est du coin, donc j'avais toujours fréquenté l'abbaye du Bec-et-Loing. J'avais fait des retraites quand j'étais ado, et j'habitais l'Île-Dieu, qui était trop loin de l'endroit où vivaient mes filles, donc je faisais la navette chaque semaine, et je souhaitais me rapprocher de Paris, mais si possible, pas vivre complètement à Paris. Donc un jour, j'ai fait un stage de peinture d'icônes à l'abbaye, et je me suis dit, mais finalement, le Bec-et-Loing, cette vallée est magnifique, j'ai toujours aimé ce lieu, il y a une sorte de paix dans cette vallée. Et j'ai cherché une maison, et trois jours après, j'ai acheté cette petite chaumière qui était misérable et qu'on a totalement refaite, en fait.
Et moi, je n'étais pas arrivée dans sa vie à ce moment-là. Donc, je suis arrivée dans un lieu qui était choisi, mais plutôt bien choisi, je dois dire. Et j'ai toujours été frappée par l'énergie et il y a un côté un petit peu à part dans cette vallée. On sent vraiment le poids de l'histoire, mais de façon positive, hein, le poids de l'histoire avec la naissance de l'abbaye il y a des centaines d'années. Et je ne sais pas, quelque chose de sacré, un petit peu.
Mais ce que vous nous décrivez là, c'est le rêve qu'ont eu beaucoup de personnes dans les années 60, le retour à la terre, les néo-ruraux, comme on les appelle, on en voit beaucoup en Ardèche, dans les Cévennes. Est-ce que vous vous enracignez dans cette tradition-là de...
Non,
je peux dire, de certains hippies qui retournent à la terre?
Pas voilà. Du tout. Je dirais que on a suivi notre cœur, voilà. Moi, je sortais de 22 ans majoritairement à l'étranger ou totalement investi dans mon bateau. Je n'étais pas du tout connecté au mouvement écolo, mais par contre, on avait beaucoup, beaucoup étudié la nature avec des grands chercheurs. Je m'étais quand même nourri de la pensée de grands chercheurs qui étaient parfois devenus nos amis ou nos maîtres comme Théodore Monod, René Dumont, Hubert Reeves, etc. Donc, j'avais un amour infini pour la nature, mais j'étais totalement coupé de la mouvance écolo que je connaissais pas du tout, en fait.
Le but était quoi, de vivre avec votre famille?
Pour moi, le dessin initial, voilà, c'était de vivre dans un lieu agréable. Surtout, au départ, moi, ma motivation première était de me dire, on va produire notre propre nourriture, s'affranchir de cette société de consommation. Ça, c'était un peu mon rêve, mais on peut pas aller bien loin. En tout cas, on n'est pas allé bien loin et pour cause. On a créé cette ferme après. Donc, l'ambition initiale n'était absolument pas de créer une ferme, en tout cas à titre commercial. C'était véritablement une partie du mois ou des semaines quand nous pouvions être là, puisque Charles avait ses filles ailleurs, hein, donc il fallait être disponible pour elles cette autre partie du temps. Une partie du temps, eh bien, nous étions ici et nous essayions de survivre, enfin de vivre et de produire notre propre nourriture. Donc c'était un peu le rêve de l'autosuffisance, mais en même temps, il nous fallait réinventer nos vies professionnelles puisque tous les deux, nous avions largué les amarres. C'est la métaphore, Marine.
Mais si on vous avait dit il y a 10 ans que vous deviendriez une ferme modèle, que des gens viendraient de toute l'Europe pour étudier la permaculture chez vous, que des journalistes viendraient vous interviewer, vous l'auriez cru?
J'aurais franchement ri, je crois. C'était juste impensable.
Ça n'a jamais été notre projet. Parce qu'à l'époque, on était thérapeute psychocorporel. C'est-à-dire qu'on s'était formé pendant plusieurs années et on était devenu psychothérapeute. Mais avec ces nouvelles approches de thérapie holistique, c'est-à-dire qui appréhende la globalité de la personne humaine, dont le corps, etc. Et ça nous passionnait. Mais finalement, ce goût de la terre, du travail de nos mains, était tellement fort qu'en 2006, j'ai réussi à convaincre Perrine de faire de la terre vraiment notre métier, notre gagne-pain. Et on a pris le statut d'agriculteur en octobre 2006. On n'avait jamais vraiment visité une ferme et jamais fait une visite technique de ferme. On n'avait jamais franchi les portes d'un établissement d'enseignement agricole.
Alors attendez, moi je vous fais la vraie version. La vraie version, c'est qu'en 2006, il m'a dit « Mais moi j'aime tellement ça !» que j'ai envie d'en faire mon métier. Je dis, bah écoute, vas-y, fais. Moi, je vais continuer à faire autre chose. Et puis, le voyant s'escrimer comme un beau diable, et puis, parce que c'était difficile, il y avait beaucoup, beaucoup de travail à réaliser. Je me dis, oh, quand même, je ne peux pas le laisser faire ça tout seul. Donc, j'ai commencé à l'aider. Et puis, voilà, j'ai été littéralement happée par la dynamique et la nécessité de main-d'œuvre au départ. Hein.
Happée et passionnée, comme vous l'êtes.
Pas tout de suite, du tout. Non. Alors, donc, nous avons été officiellement agriculteurs en fin de l'année 2006. Première saison... printemps 2007, cas intéressante, mais très, nous étions très néophytes, donc avec beaucoup d'erreurs, beaucoup d'approximations. Et puis, fin 2008, c'est là que nous avons découvert complètement par hasard la permaculture. Et là, l'histoire a tourné. It's always so hard to see how things could turn out differently, but we're in a mess now. I feel it, we're facing a wall. Fight it out, wipe out the wrong. Fight for us, we must go on. The whole world is on hold now. I feel it, we're facing a storm. See the final show now.
Nous poursuivons sur RCF cette rencontre aujourd'hui avec Perrine et Charles Hervé Gruyer dans cette ferme du Bec-et-Loing qui est devenue un lieu de référence, un lieu qui intrigue aussi bien des politiques que des chercheurs de l'INRA. Nous allons en parler autour de ce que vous vivez dans cette ferme en ayant développé ce qu'on appelle la permaculture. Alors Perrine, vous veniez de nous le dire, vous avez découvert en 2008 cette permaculture. Un mot bien mystérieux pour beaucoup de gens qui nous entendent. Pour vous, vous l'écrivez, ça a été une révélation.
Complètement, oui.
Alors, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que la permaculture, simplement ?
Alors, la permaculture, c'est tellement simple qu'on a souvent beaucoup de mal à l'expliquer. Si je devais la résumer en un synonyme, ce serait du bon sens. Mais du bon sens appliqué à quoi ? En fait, la permaculture, ce sont des Australiens qui ont mis au point ce concept de permaculture qui vient de deux mots, permanent agriculture, au départ, et puis ça s'est terminé en permanent culture, donc culture permanente. Et ce qu'ils ont fait n'est autre qu'une synthèse de bonnes pratiques quasi ancestrales pour la plupart, certes fortement dédiées à l'agriculture, parce que ces deux personnes, Bill Mollison et David Holmgren, avaient beaucoup étudié les écosystèmes à l'état naturel. Alors ça pourrait être un peu un pléonasme, mais un écosystème non modifié par l'homme. Et donc, ils se sont dit, il faudrait recréer des systèmes qui sont en complet mimétisme avec la nature, mais dans lesquels on produit. Voilà ce qu'a été l'idée de départ de la permaculture.
Charles, ce n'est pas qu'une technique agricole. Beaucoup de gens s'imaginent que c'est une nouvelle technique agricole, comme on nous parle de l'agriculture biologique. Ce n'est pas le cas.
Absolument, ça va bien au-delà. Parce que donc, l'idée forte, c'est s'inspirer de la nature. Prendre la nature comme modèle, parce qu'elle a des milliards d'années d'évolution, un génie incroyable, et essayer de penser nos créations humaines, nos installations humaines, comme des écosystèmes naturels. Donc bien sûr, ça peut s'appliquer aux jardins, aux fermes, mais ça peut aussi s'appliquer aux villes, aux entreprises, à une communauté, etc. Donc c'est plutôt un système conceptuel pour penser les systèmes en boucle, reconnecter chaque élément, les faire interagir de manière avec très peu d'intrants, très peu d'énergie, arriver à produire beaucoup sans générer de déchets durablement.
Alors, donnez-nous quelques images parce que les auditeurs n'ont pas vu votre jardin. Moi, j'ai la chance d'avoir vu vos jardins, on va dire, parce qu'il y a plusieurs parties. Il y a une île jardin, il y a une forêt jardin, il y a un mandala jardin. Pouvez-vous nous expliquer quelques éléments, vous avez adapté ce que vous venez de nous
présenter. Alors, nous, on s'est inspiré de la permaculture, mais également d'autres approches traditionnelles ou de l'agriculture ou de découvertes scientifiques contemporaines sur les sciences du vivant. Et on a créé vraiment une synthèse originale, mais en même temps, on n'a rien inventé. Et vous voyez, par exemple, le cœur de nos jardins, c'est une parcelle qui fait 1,2 hectare. Bon, 1,2 hectare, on dit, avec un tracteur, c'est à peu près surface minimale pour installer un maraîcher bio. Voilà. Simplement, nous, sur cet hectare 2, on n'a que 1 500 m² cultivés en légumes, qui sont cultivés complètement à la main et qui donnent du travail à plusieurs personnes. C'est ça qui est stupéfiant. Et du coup, on a libéré plus d'un hectare pour des mares, des haies, une forêt-jardin, des animaux, etc. Donc, on a une mosaïque de milieux. C'est très joli, hein. Il y a des arbres fruitiers partout, des centaines de variétés d'arbres fruitiers sur cet hectare 2. Et puis, on voit partout du vivant, des fleurs, des fruits, des animaux, des humains qui sont occupés. Donc, il y a quelques petites parcelles très intensément soignées et on libère de l'espace pour de la nature plus sauvage, pour
alors,
d'autres usages.
Ce qui attire les chercheurs de l'INRA, notamment, nommons-les, qui sont venus vous étudier, parce que vous êtes devenu un phénomène, hein. Vous arrivez à produire considérablement sur de toutes petites parcelles. Alors, quel est le secret? Il y a de la magie derrière tout ça?
Absolument aucune. Il y a énormément d'observations de l'écosystème. Il y a une recherche de différentes techniques, hein, comme l'a dit Charles. Autant nous cultivons dans un cadre permaculturel, donc avec ce concept d'écosystème, mais toutes les techniques qui étaient connues, hein, des maraîchers parisiens au 19e siècle, par exemple. Encore aux États-Unis aujourd'hui, il y a des gens qui cultivent comme ça. Ils pensent que tous les Français cultivent comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Toutes ces techniques qui ont fait leur preuve avant la mécanisation, eh bien, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé s'en inspirer. On a fait notre propre synthèse qui a fait que cela fonctionne.
C'est alors là pourquoi... où vous passez beaucoup de temps sur Internet aussi, Perrine. Alors, il faut le dire.
Voilà,
retour vers le Moyen-Âge.
Non,
vous utilisez les moyens modernes.
Mais bien évidemment, on a des ordinateurs, on se nourrit énormément des réseaux sociaux, d'Internet. Et même si à l'époque, quand nous avons commencé, il y avait très peu d'informations. Donc, par chance, nous avons pu contribuer à faire émerger certains ouvrages, comme les anciens ouvrages des maraîchers du 19e siècle, qui sont revenus sur les étals des libraires de façon très heureuse. Mais tout cela a fait que, en voulant travailler de façon manuelle, en voulant respecter la nature et donc l'environnement, et en voulant même limiter, en densifiant au maximum les cultures, en protégeant le sol comme il l'est toujours dans la nature, en créant de l'humus, ça c'est vraiment ce qu'on
vous
sait de la nature.
Vous êtes très attentif au sol, à la qualité des
essentiellement
sols.
Essentiellement au sol. Et on est, pour ce faire, à contre-courant avec l'agriculture qu'on pourrait appeler industrielle de l'après-guerre, qui s'est focalisée sur le végétal. Si le végétal est malade, on lui balance des pesticides ou des fongicides. S'il a besoin de pousser un peu plus, on lui met des engrais de synthèse. Et si les plantes autochtones, qui par définition vont mieux pousser puisqu'elles sont adaptées au milieu, l'embêtent, eh ben on va lui mettre des herbicides. Mais on a oublié qu'il y avait un substrat qui s'appelle le sol et qui est essentiel.
Mais c'est pour ça que vous êtes vraiment à l'opposé de l'agriculture classique, on va dire traditionnelle, actuelle. Par exemple, on peut utiliser l'expression chez vous, small is beautiful, hein, quoi. Ce qui est petit est vraiment beau. Vous encouragez à travailler sur des petites surfaces, ce qui est complètement l'opposé de l'agriculture intensive.
Quelque part, en fait, ça a été une aventure extraordinairement passionnante, y compris sur le plan cognitif. Et finalement, on a suivi notre élan. Et puis après coup, on a cherché à comprendre, mais qu'est-ce qui caractérisait ce parcours? Parce que finalement, on est sorti de la boîte, quoi, comme disaient les anglo-saxons. On a fait plusieurs pas de côté par rapport à l'approche dominante. Et ça nous a mené à chercher des sources d'inspiration qui n'intéressaient personne. Globalement, s'inspirer du monde vivant, de la nature, ça n'intéresse pas du tout l'agriculture d'aujourd'hui. Donc, alors que nous, on a pris la nature comme modèle. Et on s'est aussi inspiré de techniques plurimillénaires venant des peuples du Sud. Or, nous, occidentaux, on a toujours méprisé les peuples du Sud. On a toujours pensé qu'on était bien meilleurs qu'eux. Et là, les peuples du Sud nous ont légué des techniques comme la culture sur des buttes permanentes ou la forêt-jardin, qui sont des pures merveilles de productivité et de durabilité selon des processus totalement naturels.
Alors, Charles-Hervé Gruyer, je sais que vous travaillez justement sur la publication d'un gros livre où vous allez expliquer toutes vos techniques. C'est pas les techniques, moi, qui m'intéressent dans le cadre de cette émission Visage, vous vous en doutez bien, mais c'est, je dirais, quelque chose de plus profond qui vous habite, qui est le fruit de toute votre expérience. Et dans votre livre, j'ai lu ceci. Notre manière de façonner les paysages que nous habitons reflète nos paysages intérieurs. L'écologie commence au fond de nous, elle est spirituelle. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire en écrivant cela?
Cette phrase nous habite totalement, parce que je pense que fondamentalement, ce n'est pas les techniques effectivement qui comptent, c'est notre intention. C'est quel but est-ce qu'on poursuit en tant qu'être humain, quel sens on veut donner à notre passage, à ces quelques années qu'on passe sur cette terre. Est-ce que notre activité de paysan, à notre mort, on va laisser une terre appauvrie, polluée par des pesticides et beaucoup moins de matière organique? Ou est-ce qu'au contraire, on aura contribué à rendre le monde plus beau, plus vivant, plus durable pour les générations futures, vous voyez? Et donc, nous, on était nourris d'abord de ce désir de vivre comme les Indiens, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on était inspiré par cette pensée des peuples premiers.
Qui sont en communion avec la nature.
Voilà, et qui disent... Il n'y a pas l'homme d'un côté, la nature de l'autre, tout est un, tout est un. Si je dégrade mon environnement naturel, je me dégrade. Et nous, quand on a créé cette ferme, notre souhait, c'était de chercher la beauté. Les gens sont souvent frappés par la beauté de la ferme, mais on met tout notre cœur à ce que la ferme soit la plus belle possible. On n'avait aucun désir d'être productif. Honnêtement, on a même quand on a créé la ferme, on avait des économies de nos vies antérieures, et on cherchait la beauté. L'harmonie, voilà.
Donc, et c'est vrai, quand j'ai eu la chance de visiter le jardin ce matin, c'est la beauté.
Voilà.
C'est la beauté. On se dit, oh, mais c'est un peu le paradis ici, des animaux qui se promènent.
Mais ça fait 10 ans que les gens nous disent, mais c'est le paradis chez vous. Et on voit bien que chacun de nous a un besoin de reconnexion avec la nature, qui est très important. Donc on a commencé par rendre ce paysage plus vivant. On avait un mauvais herbage, il n'y avait pas un arbre, il n'y avait pas une mare. Et on a mis tous ces éléments que je vous ai décrits, des animaux, des arbres fruitiers, et c'est devenu super beau. Et quelque part, on a renaturé notre espace, et la nature nous a fait le cadeau de la productivité, de la durabilité.
Alors on va parler productivité, économie, parce que c'est quand même une donnée importante quand on veut vivre de l'agriculture aujourd'hui. Mais je resterai volontiers avec vous un peu sur l'aspect spirituel. Perrine, en quoi être jardinier est une démarche spirituelle, selon vous ?
Pour moi, au-delà de la beauté que nous avons voulu créer dans cet espace, c'est avant tout, presque, je dirais, la communion avec les éléments qui m'a beaucoup étonnée. Je fantasmais un petit peu en entendant les récits de Charles sur les peuples autochtones, et quelque chose en moi vibrait. Il y avait un petit peu de ce que je cherchais, cette fameuse quête dont je parlais tout à l'heure. Je crois qu'elle aboutissait, en tout cas pour un de ses cheminements, à cet endroit-là, la communion avec les éléments. Et c'est ce qui m'a beaucoup surprise, moi, au départ, dans cette vallée, c'est cette espèce d'énergie qui vous emplit, cette fusion qui peut y avoir avec l'environnement, et que j'ai complètement retrouvée dans l'écosystème que nous avons créé. Et aujourd'hui encore, je me surprends, parce que c'est un lieu qui, aujourd'hui, est très visité, je me surprends de la capacité de ce lieu à absorber toutes les énergies, à accueillir un certain nombre de gens, et de rester lui-même, de rester productif, de rester généreux, de rester beau, parce qu'il pourrait être dégradé, il pourrait être abîmé, on pourrait croire que les végétaux, à trop voir d'êtres humains, à être piétinés, etc., pourraient en pâtir. Mais non, donc il y a quelque chose de l'ordre du non-tangible que moi je mets sur le compte de la spiritualité, des énergies, on l'appelle comme on veut, mais il y a quelque chose, oui.
Pour vous, spirituellement, Charles-Hervé Gruyer, je le vois, je suis chez vous, il y a... une petite Vierge et un Saint-Joseph qu'on voit dans les crèches de Bethléem. Il y a à ma gauche une autre Vierge. Un peu plus loin, je vois une icône. Vous êtes à côté de l'abbaye du Bec-et-Loin. Vous êtes catholique ?
Oui, on est catholique. On est catholique. Je pense qu'on est des catholiques nourris d'autres traditions également. La spiritualité des Amérindiens, qui insiste tellement sur l'union du vivant, m'a façonné. Je me suis aussi nourri beaucoup de la tradition de l'Inde. Je me suis formé comme prof de yoga. J'ai fait des séjours dans des ashrams. Donc, quelque part, en matière de spiritualité, comme en matière d'agriculture, et au risque de choquer certains auditeurs, on essaie de prendre le meilleur de chaque tradition. Mais, Il n'empêche que nos racines, notre foi, sont enracinées dans la foi catholique, chrétienne, voilà.
Si votre jardin intérieur est à l'image de votre jardin extérieur, il y a beaucoup de beauté.
Ah bah non, mais ça, on y travaille.
Je ne vous connais pas assez, mais en tous les cas...
On y travaille constamment. Je dirais que si on cherche à créer un environnement beau, c'est parce qu'on aspire à la beauté, et c'est parce que justement, on voit tout ce qui est imparfait en nous et dans notre monde contemporain, donc on cherche juste à améliorer les choses, quoi.
Mais vous dites, Charles, que l'abbé Pierre vous a beaucoup aidé, justement, à ne pas désespérer. Vous dites... c'est l'abbé Pierre qui disait ça. Notre vieux monde agonise, certes, mais un nouveau monde est en train de naître. Ces quelques mots ont radicalement modifié ma perception.
Absolument. J'ai lu ça dans un magazine. C'est une critique du dernier livre de l'abbé Pierre. Et ça m'a beaucoup frappé parce que, après avoir voyagé autant d'années, assisté à tant de problèmes, de drames environnementaux et sociétaux tout autour du monde, j'avoue, j'étais un peu pessimiste. Et en même temps, je pense que le pessimisme ne mène à rien, quoi. Et c'est vrai que cette phrase m'a vraiment éclairé. Et j'ai pris une décision résolument. C'était de concentrer mon énergie sur la construction du monde de demain, avec joie, avec optimisme, plutôt que de me lamenter sur ce monde qui s'effondre, voilà. Et ça donne... C'est beaucoup plus enthousiasmant. On se lève le matin de bien meilleure humeur. Et en plus, être optimiste, c'est meilleur pour la santé. Donc, je préfère essayer d'être en bonne santé, d'avoir la pêche et le sourire en créant le monde de demain que de protester contre ceux qui saccagent la planète. C'est juste une affaire de positionnement. Mais après, je respecte tout à fait d'autres positionnements. Mais je constate l'impact. On n'avait jamais eu le désir d'être innovant avec Perrine. Et on l'a été sans l'avoir prémédité. Mais je vois maintenant l'impact de la ferme, là. Notre bouquin est traduit dans tout le monde anglo-saxon. Il fait un tabac aux États-Unis. Il va paraître en Chine. Il est en cours de traduction en Russie, en grec, etc. Je vois qu'il y a une soif incroyable tout autour du monde pour des alternatives qui marchent. Et c'est très amusant d'essayer d'inventer des alternatives qui marchent. On s'amuse beaucoup, en fait.
Alors, comment est-ce que vous vivez le fait, tous les deux, d'avoir voulu vous installer dans un lieu paisible pour élever vos enfants, cultiver la terre, et aujourd'hui d'être le focus, avoir ces caméramans qui viennent, ces photographes, ces chercheurs, ces hommes politiques qui veulent comprendre ce qui se passe dans la ferme du Bec-et-Loing et peut-être de réfléchir pour une alternative à notre agriculture. Comment vous le vivez ?
Bien, je dois avouer que ça a été une grande difficulté pour moi. C'était véritablement une épreuve parce que j'aspirais à créer un cocon pour ma famille, pour mes enfants. Et cette ferme, au départ, était un petit peu notre cocon. Elle était notre création, elle était notre énième bébé, d'une certaine façon. Et quand il a fallu, et j'emploie les mots à dessein, hein, subir ces invasions au départ, c'était un peu vertigineux. Et puis j'ai eu du mal à comprendre pourquoi, ce qu'on faisait était si hors norme, si remarquable, etc., etc. J'ai eu du mal avec la médiatisation parce que je pense que de par mon éducation, on se force un petit peu à l'humilité. Donc être mise sur le devant de la scène comme ça, c'était un peu difficile à vivre pour moi. Charles insistait là-dessus et il avait raison, il avait plus d'expérience à ce niveau. Et j'ai compris à un moment donné que c'était essentiel.
Pourquoi, Charles, c'était aussi essentiel et important ?
Parce que, honnêtement, la planète se dégrade tellement vite que moi, je me disais, si on a peut-être un élément de solution, on n'a pas le droit de le garder pour nous. Et en fait, ça se passait merveilleusement bien pour nous avant qu'on devienne agriculteur. On avait le temps de jardiner, d'être avec nos animaux, on avait déjà un cheval de trait. C'était merveilleux. Mais il nous manquait vraiment quelque chose. C'est-à-dire que être une petite famille heureuse dans une vallée privilégiée, mais alors qu'on sait que le reste de la planète est en train de naufrager par pans entiers, on pouvait juste pas. Et donc, on a fait le deuil de notre rêve de vivre tranquille, parce qu'on avait aussi une autre part de nous à aspirer à une vie engagée. Ça a pris cette forme-là. Je sentais qu'on n'avait pas le droit de se défiler.
Donc, transmettre. Vous sentez que vous avez un devoir de transmettre votre expérience.
On est tout le temps dans une valse hésitation, parce que chaque année, on se dit, bon, voilà, les médias vont en avoir assez de parler de nous, ils vont aller voir ailleurs. Et les sollicitations montent. Et en même temps, on sent que la puissance de ce qui se passe ici, c'est vrai, c'est pas du pipeau ce qui se passe ici. C'est une expérience extraordinairement porteuse d'espoir. Et donc, on se dit, mais il y a tellement de désespérance, il y a Daesh, il y a le terrorisme, les jeunes allument le poste, ils entendent parler que de catastrophes. Est-ce que nous, on n'a pas le devoir de partager cette bonne nouvelle, même si c'est au deuil de notre tranquillité?
Et c'est ce que nous renvoient les visiteurs, d'ailleurs. Et moi, c'est ce qui m'a convaincue, en fait, que tout cela était nécessaire. Quand tous ces gens venaient, ils nous disaient, mais non, au contraire, s'il vous plaît, dites-le, criez-le, et répandez la bonne nouvelle, entre guillemets, partout, parce que même si notre expérience n'est pas finie, elle ne sera jamais terminée, parce qu'avec la nature, on apprend toujours. C'est un tel partage d'expérience, c'est vraiment à ce stade-là qu'il faut le prendre. C'est un partage d'expérience plus qu'une expérience achevée, et il nous remercie de cela.
Périne et Charles Hervé Gruyer, à l'heure où nous parlons, beaucoup de gens s'interrogent aujourd'hui sur l'avenir de l'agriculture, sur l'avenir de l'alimentation dans le monde. J'aimerais que vous nous donniez quelques exemples concrets de ce que vous vivez dans cette ferme et qui attire justement les observateurs. Déjà, comment expliquez-vous que sur une si petite surface, vous avez une telle productivité et qui est économiquement viable? Comment vous expliquez cela? Alors que, excusez-moi, dans le monde, beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de paysans, notamment dans les pays du Sud, ne vivent pas, n'arrivent pas à vivre de l'agriculture, voire ont faim.
Nous, on n'a pas de subvention, on fait tout à la main, et pourtant, les résultats sont stupéfiants. Beaucoup de gens nous traitent de menteurs, on se fait injurier sur Internet, c'est inimaginable.
Maintenant, c'est plus possible, puisque l'INRA est venu, voilà, vous avez étudié pendant 5 ans.
On a mené une première étude de 2011 à 2015 avec l'INRA, AgroParisTech, soutenue par la Fondation de France, par 7 autres fondations, extrêmement bien pilotées par des ingénieurs très brillants, et qui a démontré qu'on produisait en année 3, en moyenne, 55 euros de légumes du mètre carré, en faisant tout à la main, avec une aggradation, une amélioration considérable du milieu. Alors que nos confrères, avec un tracteur, produisent à peu près, et on vient de faire une synthèse de toutes les études technico-économiques pour en avoir la certitude, à peu près 3-4 euros du mètre carré, quoi. Alors, sur des surfaces plus grandes. Donc, le chiffre d'affaires que nous, on génère sur un dixième d'hectare est sensiblement plus fort que ce que nos confrères, et c'est pas du tout pour dire on est meilleur, génèrent avec un tracteur sur un hectare, vous voyez. Et donc, ça laisse entrevoir un bien meilleur revenu, mais surtout, la possibilité de réaliser quelque chose dont l'humanité a terriblement besoin aujourd'hui, c'est qu'on peut à la fois contribuer à guérir la terre, c'est-à-dire à renaturer l'espace qu'on habite, avec des arbres, avec des animaux, avec un milieu diversifié qui est plein de biodiversité, avec une ferme qui est un puits de carbone, c'est-à-dire qui contribue à stocker du carbone, donc à apporter une petite contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. Une ferme qui fonctionne sans pétrole, parce que demain ou après-demain, il n'y aura plus de pétrole ou il sera beaucoup trop cher. Donc l'agriculture devra apprendre à se passer de pétrole, vous voyez. Tout ça, c'est des enjeux déterminants. Donc nous, on est sur tous ces chantiers-là. Et actuellement, on est sur 5 projets de recherche scientifique différents. On a beaucoup de partenaires scientifiques et techniques au niveau européen. Et la ferme explore des voies que les institutions sont pas du tout capables d'explorer en interne parce que c'est trop d'avant-garde. C'est pour ça qu'on veut pas baisser les bras. On se dit, mais les solutions qu'on peut trouver sont essentielles pour nourrir l'humanité de demain.
Alors, vous venez de prononcer une phrase intéressante. C'est trop d'avant-garde. Vous pensez que vous êtes à l'avant-garde ou c'est un retour vers le passé? Les animaux travaillent à la main, pas de mécanisation, pas de pétrole.
Non, ce n'est absolument pas un retour vers le passé parce que nous sommes au contraire au carrefour des bonnes pratiques qui, elles, ont à voir avec le passé, c'est effectif, mais aussi et surtout avec les dernières découvertes de la science, que ce soit relativement au sol. Avant, les paysans savaient décrire leur sol, ils savaient comment il fonctionnait, ils savaient ce que le sol accepterait, ce qu'il ferait pousser. Mais ils ne savaient pas le décrire chimiquement, ils ne savaient pas décrire quelles étaient les bactéries dans le sol, de quelles bactéries tel ou tel légume allait avoir besoin. Et aujourd'hui, nous, on a la chance de pouvoir se nourrir de toutes ces connaissances-là qui viennent fertiliser nos observations. Et la productivité, la réussite de cette ferme, en fait, elle est basée sur quelques piliers qui sont simples. Nous sommes productif parce que nous sommes petits. Nous serions sur une surface beaucoup plus grande à la main contre un tracteur à côté, nous serions complètement perdus et absolument pas performants. Nous sommes petits, donc nous pouvons observer avec grande attention tout ce qui se passe dans notre écosystème et utiliser les services rendus par l'écosystème. Et ça, c'est quelque chose qui a été complètement nié, voire oublié. Ces fameux services rendus par l'écosystème, c'est ce qui nous permet d'accroître la productivité. Et une dernière chose aussi, c'est cette attention quasi obsessionnelle portée au sol.
Charles ? On cherche constamment à aller dans le sens de la vie. La vie est géniale. C'est la vie qui a raison. On habite la seule planète vivante connue. Et la vie sur cette planète est très ténue. C'est juste la biosphère, c'est une petite peau de vie autour de la planète, le sol et puis un peu ce qui se passe au-dessus, et guère plus. Et donc nous, on prend soin de la vie. On cherche constamment aller dans le sens du vivant, à comprendre les forces de la vie et à créer le meilleur contexte pour qu'elle puisse s'exprimer. C'est pas étonnant que ça marche.
Alors, est-ce qu'on peut dire, tous les deux, que vous êtes des utopistes, au sens noble du terme ?
Mais oui, parce que les utopies sont tellement nécessaires.
Utopistes, mais réalistes.
Voilà, on est des rêveurs pragmatiques. Je préfère peut-être le terme de rêveur pragmatique. On est très concret, on gère la dimension matérielle, c'est une entreprise, il y a 15 personnes qui sont rémunérées en permanence sur la ferme, donc il faut des sous, on gère ça. Mais en même temps, on suit une étoile. On suit une étoile, on se dit c'est pas pour nous qu'on bosse, quoi. Et on pourrait très bien vivre plus peinard. On bosse pour nos enfants, pour tous les enfants du monde de demain, pour qu'ils aient une belle planète, qu'ils aient quelque chose dans leur assiette et qu'ils ne soient pas obligés de s'entre-déchirer entre enfants du Nord, enfants du Sud, parce qu'il n'y a plus rien dans les pays du Sud, quoi. Voilà.
On peut dire qu'il y a une visée politique aussi, parce que quand j'ai lu votre livre, notamment dans la dernière partie, ce livre, donc Permaculture aux éditions Actes Sud, vous proposez de développer des micro-fermes, à l'exemple de ce que vous vivez ici, mais de le faire à très grande échelle, et notamment pour lutter contre le chômage. Alors j'aimerais que vous nous parliez de ça.
Le simple fait déjà, le simple acte de produire sa nourriture est un acte politique. Ça, c'est juste une évidence pour nous et ça l'a été dès le départ.
Ça l'est pas pour tous. Ça, pour...
Oui, ouais. Mais c'est pour tous ceux qui ne l'ont pas pratiqué, ça, ils ne peuvent pas le comprendre. Mais une fois qu'on l'a fait, c'est juste évident. Après, cette vision d'essaimage que nous avons, elle est incontournable et elle est complètement logique quand on a parcouru le chemin que nous venons de parcourir ces 10 dernières années. Si on estime qu'aujourd'hui, des fermes de petite surface qui vont complètement à contre-courant avec l'agriculture que l'on dit moderne sont productives, permettent de créer de l'emploi, des emplois rémunérés décemment dans une société dans laquelle les gens cherchent du sens. Si nous, aujourd'hui, ayant découvert ça, nous ne le partagions pas, il y aurait presque une accusation de non-assistance à personne en danger.
Donc, selon vous, la création de petites fermes comme la vôtre à travers la France, mais à grande échelle, permettrait de changer l'économie et notamment de lutter contre le chômage. Mais vous donnez quelques chiffres,
absolument.
Charles, dans le livre.
Mais vous voyez, on est dans une toute petite vallée, dans une toute petite ferme, mais on est constamment relié au global et à toutes ces grandes questions de notre temps. La faim dans le monde, le réchauffement climatique, la perte des terres arables, le chômage, la santé, etc. Et donc, on réfléchit tout le temps aussi à grande échelle. Et pense globalement et agis localement, disait Schumacher, l'un des pionniers de l'écologie. Et donc, en fait, tous les présidents, tous les gouvernements, tous les partis politiques disent « le chômage, c'est notre préoccupation number one ». Et personne n'arrive à avoir un résultat. Pourquoi ? Parce que l'une des raisons, probablement, c'est qu'on oublie que depuis 1950, on a détruit 5,5 millions d'emplois dans l'agriculture française. Et on a actuellement, toutes catégories confondues, plus de 5,5 millions de chômeurs. Donc, on va subventionner, et ça représente 40% du budget de l'Europe, la PAC, c'est 40% du budget de l'Europe. On va subventionner une poignée d'agriculteurs qui, avec des pratiques pas très vertueuses, détruisent les sols, etc., pour produire une nourriture d'une qualité parfois douteuse qui ne contribue pas à la bonne santé et devoir indemniser des millions de chômeurs. Alors que si on remettait un grand nombre de personnes à la terre, ça permettrait de résoudre tout un tas de problèmes écologiques, sociétaux, tout en créant des emplois et en produisant localement une nourriture de haute qualité pour tous.
Et donc de l'activité économique.
Mais alors, vous avez été reçue, Perrine, je le sais, à deux reprises, je crois, au Parlement européen. Mm-hmm. Vous avez des hommes politiques qui viennent visiter votre ferme. Est-ce que le ministre de l'Agriculture s'est intéressé à vous? Et est-ce que vous pensez que les politiques veulent vraiment faire bouger les choses et aller dans le sens de ce que vous prouvez sur le terrain?
Non, le ministre de l'Agriculture n'est pas venu ici. Est-ce qu'il s'intéresse à nous? Je sais qu'il sait ce qu'est la permaculture, mais je n'en sais pas plus. Mais de façon globale, les politiques ont envie de suivre les mouvements citoyens. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est le mouvement citoyen en premier, et le politique arrive après pour éventuellement légiférer s'il est à ce niveau-là, ou pour essayer d'accompagner ou de cadrer.
Excusez-moi, vous en savez quelque chose parce que vous avez été conseillère générale,
conseillère régionale,
du Parti Écologie Les Verts pour la Normandie.
Exactement. Et j'étais en charge du développement de l'agriculture biologique à cette époque-là. Et donc, le politique va arriver après. Il faut des précurseurs, il faut des gens qui vont essuyer les plâtres, qui vont montrer l'exemple et montrer que ça peut se faire. Donc le politique, non, ne va pas changer. Il faut arrêter d'attendre tout du politique. En fait, ça, c'est un petit peu notre problème en France. Il faut se faire confiance. Nous, en tant que citoyens, nous avons la capacité, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un acte politique citoyen que de créer sa propre nourriture, que de créer ces petites entités qui, localement, vont générer des rentrées économiques, vont apporter des emplois, vont créer de la dynamique et du lien social. Vous n'imaginez pas à quel point cette ferme, et ça a été notre grande surprise d'ailleurs les premières années, a fait venir les gens et a fait se parler les gens. Les gens à la boutique, les premières années, venaient acheter 3 courgettes et restaient une demi-heure. C'est pas très rentable pour un commerce. Mais c'est ça aussi la valeur ajoutée de petites entités comme ça en milieu rural. Donc oui, c'est hautement politique. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'il y ait plus d'entités comme ça? Est-ce qu'il faut légiférer? J'en suis pas certaine parce que qu'est-ce qu'on va se prendre immédiatement le poids des lobbies en face. Pour l'instant, nous ne sommes pas dérangeants parce que ce sont des petites entités qui se développent à droite à gauche, qui créent des emplois pour quelques personnes. Mais l'espoir est phénoménal et il y a de nombreux jeunes qui ont envie de créer des fermes comme
ça. Et beaucoup viennent ici en formation parce qu'une autre de vos activités, c'est de former des
gens. Mais le parcours à l'installation est un véritable parcours du combattant. Il l'est déjà pour quelqu'un qui veut s'installer sur une ferme, on va dire, plus conventionnelle. Mais il est encore plus compliqué pour des gens qui veulent s'installer sur des petites fermes. Pourquoi? Ces gens, la plupart du temps, sont des néo-ruraux, des NIMA, comme on dit, c'est-à-dire non issus du milieu agricole, n'ont pas de référence familiale en la matière, souvent essayent de passer un diplôme, se forment, mais ont beaucoup à apprendre en réalité sur le terrain. Donc ça n'est pas évident. Ils sont peu ou pas accueillis par le monde agricole qui essaye de rester entre soi, ce qui se comprend. Donc c'est très très compliqué. Donc là où le politique peut intervenir, c'est essayer de créer cette petite étincelle localement qui fera dire au maire de telle commune « Ah, bah moi j'ai quelques hectares là, bah, j'installe un jeune, je mets à disposition ces terres pour installer un jeune. »
Et faisons un essai, ça ne va pas coûter très très cher.
Mais ça ne lui coûtera rien. Et en plus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ces bons légumes cultivés par ce jeune qui s'installe, donc qui crée son emploi, pour aller nourrir les enfants de la commune. Qui pourrait lui en vouloir de mettre en place de telles politiques qui ne lui coûteraient quasiment rien?
Mais on le voit en lisant votre livre, c'est un véritable programme de société que vous proposez. C'est paradigme.
En fait, je crois qu'on le voit tout le temps. Il y a une attente inimaginable de la société. Tout le monde sent qu'on est au pied du mur, là, que si on continue, on va faire naufrage. Et beaucoup de grosses entreprises aussi nous sollicitent pour réfléchir avec l'éclairage de ce qui se passe ici. Et l'étude qu'on a menée avec AgroParisTech et l'INRA, grâce à un chercheur très brillant qui s'appelle François Léger, c'était un pavé dans la mare inimaginable pour l'agriculture française. À tel point que maintenant, les échos qu'on a des différentes chambres d'agriculture montrent que un pourcentage très important des projets de création de fermes s'inspire des micro-fermes permaculturelles comme le Bec-et-Loing, en très peu d'années. Et là, le ministère de l'Agriculture vient de décider d'enseigner la permaculture à titre optionnel à partir de la rentrée de 2017. Et c'est Perrine qui les aide à construire les programmes. Voilà.
Finalement, pour, je dirais, conclure cet entretien, Perrine et Charles-Hervé Gruyer, aujourd'hui, qu'est-ce qui donne vraiment du sens à votre vie après tout ce qu'on
vient de dire? C'est une histoire d'amour. On prend soin de la terre et elle prend soin de nous. Vous voyez, on est dans une démarche empathique. Et je dirais que si les agriculteurs réalisaient vraiment, je dirais au plus profond d'eux-mêmes, qu'ils ont l'honneur et le privilège d'habiter la seule planète vivante connue, ils ne déverseraient pas des poisons dans leurs champs. La vie est tellement rare, déjà sur notre planète, mais à l'échelle du cosmos, c'est infiniment rare. Les probabilités que la vie se développe sur cette Terre étaient infiniment rares. Et nous, on est les gardiens de cet habitat unique, vous voyez. Et on déverse, les Américains déversent 80 kilos de poison par an et par habitant. Mais on ne peut plus quand on réalise à quel point la vie est sacrée.
Et pour vous, Perrine, qu'est-ce qui donne du sens à votre vie aujourd'hui ?
Je crois que le sens, c'est d'être véritablement en connexion. Alors, avec toute la création, à commencer par nos enfants, notre famille, etc., mais aussi avec cette nature, la sensation que l'on a au quotidien de faire corps, d'être en fusion finalement et en cohérence avec la nature, est une sensation absolument exceptionnelle. Et moi, je suis ravie de la connaître aujourd'hui parce que les personnes qui n'ont pas connu ça, qui n'ont pas traversé ça, je pense qu'il y a un manque, hein, potentiellement. Donc c'est cette harmonie, cette synergie avec la nature qui est essentielle.
Merci beaucoup à tous deux de m'avoir accueilli dans votre ferme, ici au Bec-et-Loing. Je renvoie vraiment très sincèrement, parce que je me suis régalé en le lisant, à votre livre « Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes », tel est le sous-titre, un livre publié aux éditions Actes Sud. Puis, il y a eu beaucoup de phrases que j'ai soulignées, que j'ai retenues, mais je vais juste partager celle-ci en dernier. Souvenez-vous, l'agriculture permaculturelle est une agriculture de la connaissance. Vous n'avez pas besoin d'outils sophistiqués et coûteux. C'est en vous-même qu'il convient d'investir. Merci de nous inviter à investir en nous-mêmes.
Merci beaucoup.
Merci mille fois.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais. Assistante de production Anne Guigard. Réalisation technique Philippe Faure.